Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Paul Gara et je suis accompagnée de Fendoel. Bonjour Fendoel.
Salut Paul Gara.
Comment vas-tu ?
Super.
Super ?
Ouais.
Bon, le paquet de bonbons est presque plein devant nous.
C'est pour ça que je suis de bonne humeur.
Voilà, on a toute l'énergie qu'il nous faut pour continuer. Eh bien, nous recevons François Auton qui vient nous parler de ABBA, forcément de jeux pour enfants.
Bonjour à vous.
Tu vas bien François ?
Très bien, oui.
Bon, ce festival se passe bien ?
Ouais, on est au troisième jour pour les pros, c'est pas mal.
Pas trop fatigué, ça commence un peu à...
Non, ça va. Ma fille m'a laissé dormir avant de venir, je suis en forme.
Avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif du sujet, donc pour parler d'ABBA et des jeux que vous proposez, on a un petit fil rouge qu'on te soumet,
okay.
Qu'on a fait une petite question qu'on pose à tous les invités qu'on reçoit depuis le début du festival. Je laisse Fendoel officier.
Alors François, pour toi Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Ah, jeu. 15e édition pour moi, donc c'est une année.
Vénérable. Plutôt bière ou champagne ?
Bière.
Plutôt camping ou Martinez ?
Camping.
Plutôt off ou dodo ?
Ces 15 dernières années, plutôt dodo maintenant.
Plutôt salon ou festival ?
Festival.
Plutôt pro ou perso ?
Ah, je ne saurais répondre. Les deux vraiment.
Les deux.
Les deux, j'ai envie de dire.
Ah là là, c'est pas autorisé malheureusement.
Ah non.
On va parler un petit peu de ton rôle chez ABBA. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, même si on en avait déjà parlé, un petit peu sur ce que tu fais ?
Ouais, alors je suis une forme de chargé d'événementiel, mais moi je fais pas partie de la maison mère. L'équipe France ABBA m'appelle pour intervenir sur le terrain, coordonner un certain nombre d'animations. Mais nous, je représente une maison d'édition allemande, et les sociétés allemandes ont très peu de chargés d'événementiel, parce qu'en Allemagne, il y a peu de festivals, peu de ludothèques, peu d'animations. Le jeu se porte déjà très bien sans tout ça, alors que le marché français, lui, il fonctionne comme ça. Et donc voilà, j'interviens pour eux régulièrement.
Oui, tu avais été reçu par nos équipes de l'Est, la Team Est, pour des Bretzel et des Jeux. Tu te décrivais un peu comme un mercenaire.
Oui, ouais, ouais, moi j'assume complètement le terme. C'est-à-dire que je devais être géologue, je suis animateur jeu qui a poussé plus loin voilà, le métier, organiser des événements, coordonner des équipes. Mais voilà, je peux travailler pour plusieurs éditeurs. Évidemment, tout le monde me connaît beaucoup en jaune. Je travaille normalement pour ABBA. Mais on est un certain nombre sur le marché à travailler, accompagner, proposer nos services à des éditeurs.
Et du coup, c'est en statut freelance, enfin, c'est
complètement. Ouais, on est à notre compte. Il y a des auto-entreprises.
Auto-entreprise, moi, j'ai libéral ou...
C'est ça. Moi, j'ai fini par monter ma propre société.
D'accord.
Parce que si des fois j'ai besoin d'embaucher des gens qui n'ont pas leur propre structure, c'est mieux d'avoir ça. Un auto-entrepreneur, il travaille qu'à son compte.
Mm-hmm.
Mais voilà, on est pas mal de passionnés qui ont professionnalisé leur activité.
Tu préfères ça à être salarié ? Enfin, ça te donne une forme de liberté ?
Ouais, alors j'ai pas tous les éléments de comparaison parce que j'ai jamais été en poste chez un éditeur. J'en connais quand même un certain nombre et je vois un petit peu comment ils travaillent. Effectivement, j'ai la possibilité de refuser un projet ou de le passer à quelqu'un du réseau que je connais bien si j'en ai envie. Voilà, je construis mon planning, effectivement.
Donc tu le disais, on te connaît beaucoup pour ton attachement à ABBA malgré
ouais.
tout. C'est comme ça qu'on te connaît en jaune, en fait. Puisque dans une autre couleur. Donc ça fait combien de temps à peu près là que tu travailles pour eux ?
Je crois que ça fait plus de 13 ans. Mais au début, je faisais que quelques animations. En fait, moi, j'ai fondé la maison des jeux à Tours et j'ai adoré être salarié de l'asso à laquelle j'avais participé, comme d'autres. C'était une aventure formidable. Mais travailler dans une asso, ça rémunère jamais énormément. Il y avait besoin de faire des extras. Tant qu'à faire, plutôt que d'aller faire la plonge, je voulais faire des extras dans le monde du jeu et j'ai commencé par faire un petit peu d'animation à ABBA. On s'est très bien entendu et petit à petit, j'étais en gamme pour faire monter plus d'animations, plus d'événements.
Cette fidélité à ABBA te permet aussi d'avoir du recul sur l'évolution de cet éditeur sur les dernières années. Notamment, c'est que depuis 3-4 ans, il y a une volonté de sortir du jeu petit enfant pour aller vers des gammes plus famille. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que... Tu as vu vraiment cette évolution de ton point de vue d'animateur ?
Ouais, alors ça répondait à deux aspects de besoin. D'abord, si on prend le verger, qui est le plus grand classique d'ABBA, les enfants appellent ça le jeu du corbeau. Hein. Les boutiques savent bien quand on passe la porte et qu'on leur demande le jeu du corbeau. Je pense qu'on doit trouver dans toutes les ludothèques et les crèches qui existent. Bah, les premiers joueurs de verger, ils ont eu le temps de devenir parents. Il a près de 35 ans, je crois, le jeu. Et donc, évidemment, des parents qui ont été joueurs et qui s'impliquent. Et des gens qui peuvent être attachés à la marque. Donc, cette gamme qui est faite aussi pour des gens qui restent attachés à ABBA et qui ont grandi, qui veulent des jeux plus grands. Mais aussi parce que on a une communauté qui évolue. évolue et on a des parents joueurs qui s'impliquent et on a des enfants certes petits mais qui s'ils sont bien accompagnés par leurs parents, faut pas les pousser à fond non plus, mais qui vont devenir entre guillemets des jeunes pros, peuvent accéder à des jeux un petit peu plus élaborés mais qui restent dans un univers, doivent rester aussi dans un univers un petit peu plus enfantin. Je suis quand même un enfant de 6 ans, il a que 6 ans, il y a des sujets pour eux mais accès à des mécaniques un petit peu plus costauds. Et cette gamme elle intégrera jamais de jeux de gros joueurs. Le plus long d'entre eux, il doit durer 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure pour votre première partie, mais c'est des jeux famille pour enfants joueurs ou voilà pour nouveaux joueurs entre guillemets, ceux qui découvrent cette gamme. Elle est vraiment bien faite pour se mettre aux jeux de société.
Oui, il y avait. Tu peux nous reciter les sorties qu'il y avait eu.
Karuba, ouais. Qui a ouvert la voie, hein, sélectionné au Spiel et qui est depuis déjà un best-seller hein, en termes de vente. Je pense que lui, il va s'installer pour longtemps dans cette collection-là. Ikuazu l'année dernière en gros jeu de plateau avec un principe de glissière et une cascade et un dragon qui se déplace. Il y a un vrai décor qui anime la partie. Je citerai Roi et Compagnie qui évidemment là revisite autant Catala a très bien revisité le principe des dominos et ce qui fait que comme les éléments de jeu on les connaît déjà, on rentre très vite dans les mécaniques. Là avec Roi et Compagnie vous revisitez le Yams, le Yahtzee qu'on connaît tous mais avec quelque chose qui vous amène plus loin et plus fun que le jeu traditionnel.
Abba a également gagné alors là on est plus dans le jeu petit enfant, a gagné le Spiel avec Trésor de glace Funkelschatz, ouais. Je crois ouais. Le
mot de, je me hasarde peu à faire les prononciations allemandes.
Je suis un peu entraînée. Donc de Gunther Burkhardt qu'il a créé avec sa fille.
Avec sa fille, oui, ouais. Évidemment. Effectivement, je crois que sur le marché, il y a 3-4 jeux comme ça d'enfants d'auteurs.
Il y a les enfants
devez,
rondes.
Ouais. Je sais que voilà, vous devez recevoir aussi Wilfried et Marie-Fort. Leur fils a un jeu chez Djeko. On a des enfants comme ça. Je ne sais pas si j'ai des parents musiciens. J'imagine que je peux plus facilement que d'autres me mettre à la guitare. Bah là, force de voir mes parents faire des protos, je me mets à inventer des jeux et il se trouve que certains d'entre eux font des choses intéressantes.
Et du coup, quand tu présentes les jeux, c'est quelque chose sur lequel tu insistes, les prix comme le Spiel pour, ouais. Vis-à-vis des parents, enfin pour.
D'abord, même au-delà d'Abba, j'ai toujours fait ça. L'auteur, s'il y a une petite histoire intéressante autour du jeu, c'est important de parler des gens qui font, hein, pour qu'on ait accès à tout ce loisir. Il y a plein de gens qui brainstorment, qui fabriquent, qui découpent pour qu'on ait ces jeux aujourd'hui. Et donc oui, je raconte l'histoire du jeu bien au-delà de la règle. En plus, chez les enfants, c'est très important de créer le cadre, l'ambiance qui va avec, parce que chez les petits, souvent, c'est pas comprendre la règle, le problème, c'est la concentration. Et si on crée une petite bulle autour de notre jeu avec l'histoire, eh ben, on facilite grandement la compréhension des règles et le fait que la partie aille jusqu'au bout.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que dans le jouer avec des enfants, le plus dur, c'est pas de leur expliquer une mécanique de jeu, mais plutôt de s'assurer que le temps de la partie est adapté en fait à eux. C'est beaucoup plus là-dessus qu'on a des difficultés en fait en tant que parents à les faire rester.
Ressort premier, c'est la concentration et on joue sur ces leviers-là. Ouais.
En festival, tu vois un peu tout plein d'enfants passer. C'est parfois dur, j'imagine.
Oui, alors je viens de l'animation au tout début de partie de ma carrière en tout cas, et donc des facilités à œuvrer avec ce public-là. Effectivement, en tous les cas, faut comprendre les enfants qu'on a en face de nous. Faire un peu le tri aussi, des fois des adultes qui attendent un peu trop de leurs enfants et poussent un peu trop à bout. Enfin, tu vas pouvoir jouer à ça, Tissi. Et voilà, il faut être capable de proposer le bon jeu qui va avec ce public-là, c'est très important.
Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des crises d'enfants à gérer en cours de partie, enfin, ou des crises de nerfs, ou des enfants mauvais joueurs, ou vraiment des drames, ouais. Comment on fait?
Drame, j'irai pas jusque là. Après, le mauvais joueur, il y a des trucs pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui peuvent vous empêcher de vous plaindre. Il y a des jeux dans lesquels on peut réguler le niveau. Donc déjà, si on a effectivement une famille complète, qui a un petit de moins de 10 ans, qui a un ado, vous avez des jeux où on peut réguler. Je pense, en tout cas, chez nous, chez Abba, je citerai Le Trésor des Mayas de Roberto Fraga, qui a des, comme on joue chacun son tour, à votre tour à vous, on peut vous faire jouer différemment. Si vous êtes un peu trop forte pour nous, je peux vous compliquer un peu la tâche. Ce qui régule le niveau, ce qui fait que ceux qui pourraient se plaindre, ils vont sûrement moins se plaindre parce qu'on a fait des efforts pour que ce soit adapté à chacun. Vous avez des jeux en fait qui permettent de tout ce qui est jeu de prise de risque. Ça, c'est ce que je pourrais conseiller quand il y a un peu un tricheur, puisque c'est un jeu dans lequel je vais pas venir vous saboter. C'est vous qui choisissez si vous arrêtez là et que vous êtes sage, ou est-ce que vous êtes plus gourmand, vous allez plus loin. Mais attention, on vous a prévenu à vos risques et périls. Voilà, on va essayer de s'adapter quand on a ces publics-là en face de nous, si c'est demandé ou si nous on s'en est rendu compte pour proposer le bon jeu.
Est-ce que parfois, à contrario, tu t'es épaté par certains enfants?
Oui, ça c'est quelque chose qui se vérifie. Alors, faut, on le dira jamais parce que c'est compliqué de flatter l'enfant et qu'il comprenne bien le ce qu'on vient de dire. Les boutiques de jeux, je sais pas si vous en interviewez, mais ça c'est le grand classique pour le rayon enfant. Attention, hein, tous les enfants, la moitié de la population enfant est surdouée. Hein, si on écoute ce qui se passe dans une boutique, faut, des adultes veulent régulièrement des jeux à des âges plus âgés, en fait plus importants que l'enfant qu'ils ont.
Ah ouais.
Ça nous on déconseille. Enfin, il faut prendre le temps, le jeu de société. Faut que ce soit un plaisir. Et si je vous monte un peu trop la barre, ça risque d'être un peu frustrant. On risque de créer l'échec. Inversement, par contre, ça existe. Effectivement, des enfants qui vous bluffent et voire même des fois qui comprennent mieux que leurs parents. C'est des choses qu'on a vécues sur des festivals et oui, qui peuvent être impressionnants de capacité de mémoire, d'organisation, de stratégie des fois. Et ça, c'est des petits plaisirs d'animateur hein, d'assister à des scènes comme ça.
Ben, on va parler maintenant plus précisément de ce que tu proposes comme nouveauté pour ABBA sur ce festival. Donc, t'es venu avec une boîte.
Ouais.
Une boîte qui est pas complètement jaune, on le note, hein, qui est moitié, elle est un tiers jaune et puis un tiers avec du vert et puis des petits symboles. C'est quoi ce
Exactement.
Jeu?
Exactement. Alors en fait, Escargot Préparté, c'est le dernier jeu de Wilfried et Marie Faure. Si vous êtes présent sur le festival à Cannes, si vous faites tour de tout le festival, je pense qu'il y a 7 ou 8 de leurs jeux en ce moment qui sont présents. C'est des auteurs qu'on adore, qui ont la cote et qui sont vraiment très doués pour développer des jeux pour les petits, les enfants. Et parce que je pense qu'ils ont vraiment ça dans le sang. Ils sont parents, ils vont dans les écoles, ils vont dans les centres sociaux, ils testent à fond leurs jeux. Honnêtement, pour un éditeur, c'est un peu du pain béni. C'est-à-dire que les protos qu'ils nous amènent, il n'y a presque plus qu'à faire le design et envoyer à la production. C'est-à-dire que c'est des choses finies. C'est opérationnel. Et là, ils nous ont fait un fabuleux jeu où on joue avec la boîte du jeu. Le prototype se jouait déjà avec une boîte métallique puisque la boîte se met à la verticale sur le plateau du jeu. C'est le jardin de Wilfried et Marie Faure dans lequel les escargots vont faire la course. Et la boîte à la verticale, c'est un mur sur lequel évidemment les escargots vont grimper. Et il y a cet effet waouh pour les enfants. C'est génial quand un escargot que j'avance grimpe sur le mur et évidemment avec le système aimanté, colle à la boîte et va pouvoir faire tout le tour.
Voilà. Ouais, donc c'est un jeu de course, en fait, ouais. Qui est assez malin puisqu'on a toujours le choix, comme on a 2D, on a toujours un symbole et une couleur associée, on a toujours le choix entre avancer l'escargot de la couleur ou du symbole, en fait. Et
voilà, dans un sens ou dans l'autre.
Ce qui laisse du choix à l'enfant, ouais. Finalement, enfin, aux joueurs en général, laisse du choix dans ce que, stratégie de ce qu'on va faire.
Ouais. Si les plus grands veulent un peu se donner une idée, si vous avez joué à Cartagena, il y avait un petit peu une idée comme ça de déplacement. Là, ils ont vraiment fait quelque chose d'adapté aux petits. Mais voilà, on vous offre des choix. Vous avez un objectif secret. En fonction des choix qui sont présents devant vous, lequel vous allez faire pour essayer d'œuvrer au mieux en direction de votre objectif.
Et là, le jeu est bien reçu quand tu le présentes, ça.
Ouais. Retour absolument extraordinaire. Tout le monde est unanime. Le public, les boutiques en veulent. Il est sorti un peu avant Noël. Il a déjà très très bien démarré. Nous, on pense que ce jeu-là, il a le pouvoir de s'installer parmi les permanents, parce que le monde du jeu français, en tout cas, fonctionne comme ça. On a plein de sorties chaque année, et puis de temps en temps, il y en a un qui a le pouvoir de s'installer durablement sur les étagères des boutiques.
On disait un peu en off avant l'interview, c'est que le matériel est un élément essentiel maintenant, surtout particulièrement dans le jeu pour enfants.
Ouais, je pense que heureusement on peut l'étendre à tout le monde, mais évidemment chez les enfants, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ils posent tout de suite un décor. Et donc là le principe est monté, mais tout ce décor crée l'ambiance et ça va grandement aider. Ça donne du sens aussi aux choses, comme ça raconte l'histoire. Les enfants comprennent rapidement la règle qu'on est en train d'expliquer parce que c'est naturel. Voilà, le décor sert à ça.
Et à part donc tu nous as parlé du verger, tu nous as parlé de Escargot Préparté. Est-ce qu'il y a d'autres best-sellers que tu recommandes vraiment aux parents?
Si jamais c'est encore possible de découvrir la gamme ABBA, si vous ne connaissez pas encore, évidemment, ouais. Il faut jeter un coup d'œil du côté de Monza, qui est un peu le premier jeu de stratégie dans le cadre d'une course de Formule 1. On pense à...
C'est plutôt pour quel âge?
5 ans, pardon. Oui, 5 ans. À 4 ans, Pyramide d'animaux, qui est un excellent jeu de première motricité, un jeu d'équilibre dans lequel vous allez faire grimper vos figurines de bois. Et évidemment, ça fait partie des jeux de patatras, il ne faut pas que ça s'écroule, vous mettez la pression sur les autres. Hop hop galopons chez les tout-petits, qui mixe une course de chevaux, comme ça on a un petit côté un peu traditionnel, les grands-parents sont pas effrayés par une nouveauté, mais qui vous oblige pendant la course aussi à collecter des objets pour prendre soin de votre animal, votre cheval qui donne tout pour vous dans cette course. Donc c'est un principe de double objectif qui fonctionne quand même avec 3 ans, parce que je jette les 2 dés, je prends l'un ou l'autre, soit les points pour avancer, soit l'objet pour compléter ma collection, mais pour gagner la course il faut tout obtenir, il faut tout finir sur les deux plans. Donc voilà, ces jeux-là sont installés depuis des années et sont véritablement des best-sellers. Chaque année par contre, il y a encore une trentaine de nouveautés, des tout petits formats, des grands plateaux qui sortent, des nouveautés. Et on en présente déjà quelques-unes là-dessus. Ces dernières années, c'est évidemment les licornes qui ont pris le dessus. Alors, pas que nous, hein, la licorne en ce moment à la cote. Et évidemment, je crois qu'on est au troisième jeu d'une collection, une suite d'histoires autour de ces licornes. Et un premier compétitif, deux coopératifs qui sont sortis par la suite. Et là, c'est carton plein.
C'est quoi le titre exact ?
Licorne dans les nuages était le premier. D'accord. Et évidemment, déclinaison autour de ce titre-là pour les jeux suivants. Après, il y a Licorne dans les nuages, Bienvenue à Rosalie, qui est la suite de l'histoire. Il y a un nouveau personnage qui apparaît. Et dernièrement, là, sur le festival, si vous avez suivi le début de l'histoire, maintenant, les licornes organisent des grandes fêtes dans leur château dans les nuages. Et là, le château est plus assez grand. Alors, il faut agrandir les pièces avec des salles, des pièces de nuages et tout ça. Donc, le dernier est un jeu d'équilibre et de construction.
D'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir une gamme avec des personnages auxquels les enfants peuvent finalement s'attacher, se familiariser et après de proposer des jeux qui exploitent des mécaniques différentes dans cet univers, c'est ça ?
Oui, la notion d'univers est très importante chez ABBA parce que les joueurs les connaissent bien pour les jeux de société, mais il ne faut pas oublier qu'ABBA, à l'origine, c'est des menuisiers, c'est des fabricants de chambres d'enfants, de matériel de crèche et d'école. Mm-hmm. Et donc, ce que vous pouvez connaître en jeu de société peut exister aussi en déco de chambre, en sac à dos, en vaisselle pour les enfants. Et donc voilà, ces univers chez ABBA, ils sont souvent, quand il y en a un qui rencontre un succès, il peut être très très développé.
Il n'y a jamais eu de licence de personnages autres, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, une Dora l'exploratrice,
cet ordre-là, un petit peu en littérature jeunesse, mais qui est là pour le coup très attaché en fait à la littérature allemande. Et qui, par contre, il se trouve qu'il y a une spécificité en Europe, c'est-à-dire que les Allemands ont leur littérature jeunesse et s'intéressent assez peu à ce que le reste de l'Europe peut produire, alors que effectivement chez nous, il y a des succès qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Espagne et qui passent facilement les frontières. Et donc l'équipe France n'a pas traduit les jeux développés sous ces licences-là parce qu'elles sont méconnues ici et que l'intérêt de la licence serait pas avéré sur le terrain.
Tu parlais de Karuba tout à l'heure, qui est un jeu très très connu. Hein, c'est vrai. Là, on n'est pas dans le petit, mais on est plus familial. Et il y a Karuba Junior aussi qui est sorti. Tu peux nous en parler un peu ?
Oui, tout à fait. Alors Karuba Junior, évidemment, arrive parce que son grand frère arrivé en premier et a rencontré un très très gros succès en même temps que Karuba Kart. Il y a deux autres boîtes.
Juste pour bien situer, Karuba, le jeu normal, il est pourquoi 8 ans ?
À partir de 8 ans, vous en avez pour 20-30 minutes la partie, dans un jeu de tuiles où on est tous strictement à égalité. Très important pour ce jeu, aucune notion de chance à Karuba.
Et Karuba Junior, du coup,
Karuba Junior, on va garder l'histoire. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir chacun son plateau, c'est un coopératif. Il y a un plateau central. Nous sommes un groupe d'aventuriers. Nous devons trouver des chemins dans la forêt sous forme de jeux de tuiles comme un puzzle qu'on va assembler et dessiner une carte différente à chaque partie. Mais il y a des pièges dans la forêt. Attention. Il y a des tigres. Il y a des cul-de-sac. Il y a des pirates qui peuvent débarquer avant nous et ils rigolent pas. Hein. Ils prennent tous les trésors pour eux sans rien nous laisser. Faut qu'on ait trouvé tous les trésors ensemble avant que les pirates n'arrivent.
Et Karuba Junior, c'est quel âge, là ?
4 ans.
Oui, donc c'est vraiment...
C'est vraiment une collection pour les petits, ce qui est le cœur des jeux de société ABBA, hein, cette gamme-là. 3 ans, 6 ans, c'est là où on trouve le plus de jeux dans la collection ABBA. Il y a une collection que je dois mettre en avant aussi, et qui, elle, a quelques années, et qui sont mes premiers jeux. Le Verger a été adapté en mes premiers jeux. C'est le même jeu que vous pouvez connaître, mais il est plus petit, il y a moins de fruits, pour que justement la partie soit moins longue. C'est des jeux qui sont proposés à partir de 2 ans.
C'est celui qui a les fruits beaucoup plus gros.
Exactement, pareil, les pièces étant plus grosses, c'est plus facile pour les petits. Ça évite un accident si jamais un enfant porte encore des pièces à sa bouche, même si dans tous les cas, que ce soit les grosses pièces ou les petites pièces, c'est toujours des peintures à l'eau, des vernis en salon, ça craint absolument rien avec les pièces d'ABBA.
C'est juste que quand tu prends la pomme, quand il te le jette la pomme dans la tête, ça fait nettement plus mal.
On décline toute responsabilité de ce côté-là. Et donc cette collection, elle commence à rencontrer un très très gros succès parce que justement, il y a ses parents joueurs qui s'impliquent. C'est pas tiens, voilà un chaussetier, va jouer avec ton frère. C'est on va jouer ensemble et l'adulte recréant le cadre, rappelant les règles si nécessaire, peut accompagner un tout petit à partir de 2 ans. Alors, à 2 ans, si on l'accompagne pas, le jeu devient un jouet. Hein. Il y a plein de jolies figurines de bois dedans, il y a un plateau. Mais c'est du matériel, c'est des règles très très simples. C'est déjà apprendre mon tour de jeu, lancer le dé, faire la petite consigne qui est sur le dé. Enfin, c'est les prémices de notions de règles et de jeux de société qu'on peut découvrir au travers de cette collection.
Toi, de ton point de vue, le jeu de société doit-il toujours être pédagogique ou on peut accepter d'avoir des jeux qui n'ont aucune vocation pédagogique, enfin, surtout dans le jeu pour enfants, hein, genre, bien sûr. On peut accepter d'avoir des jeux qui ne sont pas du tout là pour apprendre. Enfin, toi, de ta perception sur cette question?
Alors, comme je vous ai dit, j'ai participé à la Maison des Jeux de Touraine. Je me ferais fusiller si je disais autre chose. On est des militants. Je suis militant du jeu intrinsèquement éducatif. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'y cacher un exercice, caché sous le jeu. Par contre, voilà, jouer, c'est développer ses compétences, c'est prononcer les choses, c'est énoncer, c'est mémoriser, c'est s'organiser dans sa tête. Et donc, plus on joue à une diversité de jeux importantes, bah, plus, c'est sûr, on accompagne le développement de l'enfant. Comme on fait du maintien de l'intellect chez les personnes âgées, intervenir dans des maisons de retraite avec des jeux, proposer à jouer à ces gens-là, plus on le fait, plus ça stimule le cerveau et ça permet de vivre plus longtemps.
Écoute, François, on te remercie vraiment chaleureusement d'être venu pour nous parler de jeux enfants.
Merci à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, bien partagez-la et puis rendez-vous sur notre page Tipeee. Oui, Tipeee, c'est très important parce que c'est grâce à vous, tipeurs, que nous avons pu être présents sur ce Festival International des Jeux de Cannes 2019. On se retrouve très vite sur ProxyJeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.